vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Colossiens. On va continuer notre méditation. On va lire les versets dans le premier chapitre, toujours verset 1 à verset 8. Nous avions vu la semaine dernière des caractéristiques des collaborateurs de Paul qui sont dans cet épître aux Colossiens. Et puis là, ce soir, on va voir ce qui est dit des chrétiens de Colosse. Chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, de la parole de l'Évangile, vous a été précédemment fait connaître. Pardonnez-moi, j'ai mal lu le verset. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous l'avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Amen. Alors on avait déjà disséqué de ce texte la notion de la volonté de Dieu. On avait, au travers d'Épaphras et des autres collaborateurs, tiré quelques leçons également, quelques enseignements à tirer. Et puis ce soir, là, on va voir dans ce passage-là les caractéristiques de l'Église de Colosse. Ça commence effectivement par cette appellation au verset 1er, où Paul ne parle pas de chrétien. Le mot est employé beaucoup plus tard. Il parle plutôt en désignant cette communauté de croyants de saints et de fidèles frères en Christ. Est-ce que vous êtes des saints? Oui, non. On connaît l'expression quand on dit « Oh, je ne suis pas un saint ». Sous-entendu, je ne suis pas arrivé à une perfection qui fait ce que je ne puisse jamais faire d'erreur. Effectivement, nous ne sommes pas des saints au sens où nous ne sommes pas des parfaits. Donc la notion de sainteté ne fait pas référence au fait que nous soyons parfaits. La perfection, elle nous est réservée quand on sera au ciel, quand on sera dégagé de ce corps de misère. Paul lui-même disait, mais ce que je voudrais faire de bien, j'arrive pas à le faire, mais qui me délivrera? Il dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est parfait, on voit même de temps en temps, et on avait vu ça la dernière fois, que même en tant que... On avait vu qu'il y avait une séparation pendant un temps entre Paul et Barnabas, à propos d'un autre collaborateur qui les avait abandonnés dans le service, Marc qui avait abandonné. On avait vu comme ça des hommes de Dieu dont Dieu s'est servi avec puissance et qui ont eu des actions imparfaites. Imparfaites. Nous sommes des imparfaits. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des imparfaits que nous devons accepter nos imperfections. En tant que saints, cela désigne également le processus dans lequel nous sommes rentrés, qui est la sanctification. Je le dis souvent, il ne faut pas que nous soyons les mêmes chrétiens qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et nous ne serons pas les mêmes dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut qu'il y ait une progression, une évolution, une maturité, une croissance. Un chrétien qui stagne, ce n'est pas normal. Un chrétien qui n'est pas parfait, c'est normal. Mais un chrétien... Dieu ne nous reprochera jamais de ne pas être parfait, mais il nous reprochera de ne pas travailler, de ne pas faire les efforts pour rectifier ce que nous réalisons, petit à petit d'ailleurs, de temps en temps, ce qui est encore imparfait en nous. De temps en temps, les autres voient des imperfections en nous que nous, on ne réalise pas toujours, n'est-ce pas? Mais si on laisse le Seigneur nous travailler, nous émonder, alors, à fur et à mesure, on se connaîtra mieux, on réalisera certaines choses, on demandera l'aide de Dieu, et c'est ainsi que l'on fait des progrès. Je ne pense pas qu'on demandera à Aurélie de passer le bac à la fin de l'année. Non, elle n'est pas encore à ce niveau d'études. De la même manière, chacun d'entre nous, le Seigneur, ne nous demandera jamais d'être comme telle ou telle personne. Pourtant, il y a de temps en temps dans nos cœurs des modèles, des exemples. Ah, si seulement je pouvais être comme ça. C'est déjà bien d'avoir l'aspiration. Il faut qu'Aurélie aspire un jour à passer son bac. Mais il faut qu'on y travaille afin de parvenir à ses objectifs. Et puis, il y a cette phrase encourageante en Philippiens, chapitre 1, verset 6, où Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celle de la nouvelle naissance, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alléluia. L'espérance qu'on doit avoir n'est pas basée sur ce que l'on est actuellement, mais sur ce que le Seigneur fera de nous demain. Alléluia. On peut toujours trouver des imperfections, des lassitudes. Même on peut se dire, mais comment ça se fait depuis des années que je suis au Seigneur? Comment ça se fait que je bute encore sur ces choses-là? Merci Seigneur que ça travaille nos cœurs. Mais merci Seigneur parce qu'il nous amènera à cette progression et à cette maturité spirituelle. Amen. À condition, effectivement, et c'est la deuxième caractéristique qui est souvent associée et souvent un qualificatif qui désigne les chrétiens, le terme de fidèle. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes fidèles. Vous le savez certainement, mais le mot foi et le mot fidèle, c'est la même racine, la même origine. J'ai envie de dire que notre foi doit influencer notre caractère. Et pas l'inverse. C'est pas notre caractère qui doit influencer notre foi. Quand il nous est appelé à être des hommes et des femmes fidèles, en fait, est-ce que ce n'est pas une conséquence logique de la foi? Étant donné que c'est la même racine, c'est le même état d'esprit. Quand on parle de fidélité, on parle de confiance. On parle de vérité. On parle de loyauté, on parle d'intégrité. C'est ça, quelqu'un qui est fidèle, qui intègre. Il y a aussi la notion de la constance, de la persévérance, de l'attachement. Ne faut-il pas beaucoup de persévérance dans la vie chrétienne? Ceux qui en douteraient attendaient encore quelques années ou quelques mois. Vous apercevez que dans la vie chrétienne, il faut de l'attachement, il faut de la fidélité, il faut de la constance. Je ne sais plus qui priait comme ça, je te loue dans les bons jours, mais je te loue aussi pour les mauvais jours. Parce qu'il faut que notre foi soit constante, il faut que notre mentalité soit constante, il faut que notre amour à l'égard des autres soit constant, il faut que notre désir de connaître la parole soit quelque chose de constant. Je le rappelle, l'inconstance, l'irrégularité est une marque de fragilité spirituelle, de manque de maturité spirituelle. Un frère, une sœur doit avoir ce désir de grandir dans cette constance spirituelle, dans cette constance de vie spirituelle, de service, mais également d'humeur et de caractère. L'autre caractéristique qui nous est mentionnée là, on s'y habitue beaucoup, on l'emploie d'ailleurs entre nous, c'est l'expression frère et sœur. Frère et sœur. Qu'est-ce qui fait que deux personnes soient frères et sœurs? Ce qui fait que deux personnes sont frères et sœurs, c'est qu'ils ont le même père ou la même mère. Le mieux, c'est les deux. En l'occurrence, nous sommes frères et sœurs parce que nous avons le même papa. Il arrive souvent dans les églises, dans des conversations, dans des remarques, que certains fidèles, certains saints et fidèles d'Église sont déçus par la réaction, par le comportement de tel ou tel chrétien. Et ils se disent « Ah, mais c'est ça être frère! C'est ça être sœur !» Parce qu'ils établissent la notion que frère et sœur, en fait, c'est comme si on devait être main dans la main, rien ne devrait nous séparer, on devrait être toujours là, soucieux des uns des autres. On devrait, amen. On doit. On le verra par la suite. Mais en fait, ce qui fait la caractéristique du fait qu'on est frère et sœur, c'est la qualité de notre relation avec notre Père. Si chacun d'entre nous, nous entretenons un vif attachement à la qualité de notre relation avec notre Père, alors c'est ainsi que nous sommes tous frères et sœurs. ceux qui ont eu des frères et sœurs se sont aperçus qu'être frère et sœur, ça ne veut pas dire qu'on est inséparable. La Bible nous dit même qu'il n'y a rien de pire que les disputes entre frères. On peut être frère et sœur et ne plus jamais se parler. On peut être frère et sœur et ne plus du tout se comprendre. On peut être frère et sœur et se dire, mais attends, t'es vraiment mon frère, t'es vraiment ma sœur. Tellement tout nous sépare, tout nous distingue, alors qu'on a eu les mêmes bases, les mêmes éducations. Donc en fait, ce n'est pas la notion de relation, de qualité de relation entre nous qui fait qu'on est frère et sœur. Ce qui fait que l'on est frère et sœur, c'est notre relation, chacun individuellement, avec notre Père. Et si on s'aperçoit que quand chaque chrétien, chaque fidèle, chaque saint, dès qu'il y a une bonne communion avec le Seigneur, alors il y a une bonne communion entre nous, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on réalise qu'on est vraiment frère et sœur, parce qu'on expérimente les mêmes choses, parce qu'on vit les mêmes choses, parce qu'on a les mêmes fardeaux, parce qu'on a les mêmes désirs, on a les mêmes aspirations. Dans les églises, c'est classique. Une église qui ne se soucie pas de l'évangélisation, une église qui ne se soucie que de son confort, que de sa petite vie interne, c'est une église qui va se bouffer entre elles, qui va critiquer, qui va passer son temps à causer les uns sur les autres. Une église qui est en mouvement, une église qui a le but de rechercher les choses en haut, une église qui a le but d'annoncer l'évangile, une église qui aspire, parce que chaque chrétien aspire à gagner des âmes. Il n'y a pas de querelle dans l'église. Parce que, en tout cas beaucoup moins. Parce qu'il y a une aspiration, un centre d'intérêt qui n'est plus fixé sur nos intérêts égoïstes, sur nos intérêts propres, mais sur une recherche des choses d'en haut et sur la volonté de voir les âmes être sauvées. Alors oui, nous sommes frères et sœurs quand nous partageons le même désir de servir le même Papa, le même Seigneur. Alors évidemment, nous le verrons par la suite au Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais on verra ça ultérieurement, mais je l'aborde déjà, effectivement. Dans cette même épître, Paul nous demandera de nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Évidemment, évidemment que ce sera un thème indispensable. Une église, et ça vaut le coup de le mentionner, une église qui réjouit le cœur des serviteurs. Vous savez, on entend des pasteurs qui peinent. Oh l'Église c'est dur. Pas ici, hein. Mais là, Paul, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre... Et nous ne cessons de prier pour vous. Paul est réjoui de l'Église de Colosse. Il est heureux de cette Église, pas sans raison. Et c'est au verset 4. Il dit pourquoi est-ce qu'il se réjouit, pourquoi est-ce qu'il rend grâce, pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu pour cette Église de Colosse. Parce qu'il dit qu'il a été informé, il a entendu parler. Il a entendu des bonnes nouvelles qui sont au verset 4. Votre foi en Jésus-Christ et votre amour pour tous les saints. Et au verset 8, il le rappelle. Épaphras nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Paul se réjouit de deux choses. Il ne se réjouit pas des miracles et des guérisons. Il ne se réjouit pas des dons spirituels. Il ne se réjouit pas du nombre de conversions. Bah on se dit, bah, de quoi tu peux te réjouir? Il se réjouit de deux choses. Il se réjouit de la foi et de l'amour qu'il y a au milieu de l'Église. Que le Seigneur puisse se réjouir de notre foi et de notre amour. Que les gens qui parlent de nous puissent dire, mais c'est extraordinaire, il y a une foi, il y a un amour chez eux. Parce que la foi et l'amour sont les fondements de toute notre vie spirituelle. Tout dépend, tout n'est que question de foi et d'amour. Si vous lisez toutes les épîtres de Paul, Paul parle sans cesse de la foi et de l'amour. Tout le reste, ce ne sont que des ramifications, ce ne sont que les fruits, ce ne sont que les résultats de la foi et de l'amour. Regardez, on parlait tout à l'heure des dons spirituels. Il ne s'est pas réjoui des miracles, etc. Même si je pense que dans son cas, il devait s'en réjouir. Mais ce n'est pas ça qu'il veut mettre en avant. Mais même dans les dons spirituels, quelles sont les deux conditions pour manifester les dons spirituels? La foi et l'amour. Aspirez aux dons spirituels, et je vais vous montrer un chemin par excellence, et c'est le chapitre 13, aimez-vous les uns les autres. La foi et l'amour, mes bien-aimés, ça doit être notre objectif. On ne doit pas chercher à être des puissants, ou à gagner, ou à faire ceci, ou à faire cela. La seule chose que l'on doit fixer comme objectif dans notre vie, c'est: Seigneur, fais-moi grandir dans la foi. Fais-moi grandir dans l'amour. Quelque part, c'est résumé par la parole de Jésus qui a dit: le premier commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien Dieu, c'est ça, c'est cette foi, c'est ce désir, c'est cet attachement, c'est cette recherche des choses spirituelles. Quand on aime, on recherche. Et c'est là qu'on comprend que quand on a cette foi, cette aspiration, ce désir, cette attente intérieure, alors oui, ça ne peut être qu'animé par cet amour pour les choses d'en haut. Et c'est indispensable d'aimer notre prochain. Savez-vous ce que Dieu aime le plus au monde? Eh bien, chacun pourrait dire « moi ». Moi. Dieu nous aime. Mais pas en groupe. Dieu nous aime individuellement, chacun. Il a créé l'univers, il a créé la galaxie, il a créé les étoiles extraordinaires, il a créé la nature, il a créé les animaux, il a créé les couchers de soleil et les levées de soleil qui nous émerveillent. Mais tout ça, il l'a fait pour qui? Mais pour nous, nous sommes les créatures qu'il aime. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Parce que comment est-ce qu'on peut dire: je vais t'aimer Dieu, mais je ne vais pas aimer ce que toi tu aimes de tout ton cœur? C'est pas possible. C'est pas possible. Quand Dieu nous demande de nous aimer, quand Dieu nous demande de grandir dans l'amour, c'est parce que lui-même, il est omnibulé, il est rempli de l'amour que lui-même a pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il y a des passages comme ça qui disent de ne pas dédaigner le pauvre. Parce que si tu dédaignes le pauvre, tu dédaignes son créateur. Devant Dieu, ce n'est pas des riches, des pauvres, des banquiers ou des maçons. Il voit des hommes, des femmes qu'il aime. Nous sommes chacun la personne la plus aimée du monde. Ça veut dire aussi que la personne que je vois en face de moi est la personne la plus aimée de Dieu. Et nous devons travailler à dire: Seigneur, mais apprends-moi à aimer comme ça, n'est-ce pas? Enfin, en tout cas, ce sera ma prière pour ce soir. Parce que humainement, on a besoin d'apprendre à aimer. Mais on a aussi besoin d'apprendre à faire grandir notre foi. On a besoin de comprendre les choses. On a besoin d'être sensible aux choses spirituelles. On a besoin d'avoir cette qualité afin d'aller plus loin avec lui. C'est tellement important, la foi et l'amour, que le combat du diable est précisément ces deux domaines-là. Ce que le diable cherchera toujours à déstabiliser dans notre vie, c'est la foi et l'amour. Par les circonstances, par des critiques. Après, il a toute une panoplie, lui, de systèmes pour saper ce magnifique navire de la foi et de l'amour. C'est Jésus qui le dira. Il dira que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, aura-t-il la foi? Bien sûr qu'il y aura encore de la foi, parce qu'il y aura des hommes et des femmes qui continueront. Mais il s'interroge parce qu'il sait que le diable cherchera à saper la foi. La vraie foi, on n'est pas en train de parler de superstition ni de religion, mais de ce quelque chose-là qui est dans nos cœurs. Il dit: mais Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Et on voit que la société, les systèmes font qu'on essaie d'anesthésier cette aspiration spirituelle. Le diable est derrière ces choses. Comme il est celui qui, par l'iniquité, Jésus le dira encore, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira, parlant encore de la fin des temps. Donc c'est à nous d'être conscients de ces choses. Pour ceux qui veulent les références, c'est Luc 18, 8 et Matthieu 24, 12. Mais nous devons être conscients. Parce que c'est vrai que de temps en temps, nous sommes sollicités, donc votre pasteur, votre méchant pasteur vous a mis à servir, à semer, à agir. Il faut faire toutes ces choses-là, mais avec la foi et avec l'amour. En fait, si on grandit dans la foi et si on grandit dans l'amour, nous serons naturellement poussés à faire ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Une autre caractéristique du chrétien, c'est ce qui est écrit au verset 5. L'espérance céleste. L'espérance qui vous est réservée dans les yeux. Récemment, je discutais avec une personne et je lui ai demandé, mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Et la personne avait l'air d'hésiter. Dis-moi ton expérience. Elle me disait, oui, je suis allé à l'église, ceci, cela. Puis, je dis, c'est pas possible. Et je lui dis, mais si tu meurs ce soir, où vas-tu? Je repose la question. Si ce soir tu meurs, où vas-tu? Aucune conviction. Je lui ai dit, si tu n'as pas la certitude du salut, si tu ne sais pas que tu vas au paradis, c'est que tu es en train de courir en enfer. Ça, c'est la caractéristique du chrétien. C'est que l'on sait que notre espérance, elle est céleste. On sait qu'on est sauvé. On sait que notre âme, là, elle est déjà au ciel. On sait que quoi qu'il arrive, notre finalité, c'est le ciel, c'est la maison avec le Père, c'est cette relation parfaite. Et quand on fait le bilan de tout ce qui pourrait résumer qu'est-ce qu'un chrétien, un chrétien, c'est celui qui sait qu'il est sauvé. Après, tout le reste, là aussi, ce sont des conséquences. C'est une relation, c'est un développement. Mais c'est bien ce qui caractérise un chrétien. Ce qui caractérisait les chrétiens de Colosse, ce qui doit caractériser tous ceux qui se revendiquent d'être chrétiens. Avons-nous cette espérance? Alors, cette espérance céleste doit être pour nous une force. Parce que, disons-le, merci Seigneur si nous avons un toit, une maison, un logement, si nous avons la santé, si nous n'avons pas trop à nous soucier de la condition non matérielle dans laquelle nous vivons. Mais Jésus nous le dit, on peut perdre ça aussi. Par contre, une chose qu'on ne peut pas perdre, c'est cette espérance céleste. Et notre cœur, notre vie, doit vraiment s'accrocher à cette espérance céleste. Notre force, notre enthousiasme, notre joie doit dépendre de cette espérance céleste. Notre motivation, notre engagement même avec Dieu doit être stimulé de cette espérance céleste. Le dernier point, c'est ce qu'on peut lire au verset 5 à 8. Je le résume. Paul est en train de dire, il met l'accent sur le fait que leur foi et l'amour est venu parce qu'ils ont reçu l'espérance, et cette espérance, ils l'ont reçue parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu. N'oublions jamais cet ordre. Tout commencement de vie chrétienne commence par la réception du message de l'Évangile. Tout commencera par l'écoute et l'acceptation du message de l'Évangile. Il y a la parole. La parole réveille en nous un espoir, parce qu'on réalise qu'effectivement, en Jésus-Christ, il y a un espoir, il y a une possibilité, il y a un renouveau. Le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Elle porte en lui-même l'essence même de son message. Donc on entend ce message, ça suscite l'espoir, et cet espoir développera en nous cet attachement dans la foi et dans l'amour. N'oublions jamais que le fondement de la vie du chrétien, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les expériences. Il y a des gens, il y a de nombreuses personnes qui ont été guéries, visitées, qui ont été touchées. Mais ils ont fait abstraction du fait d'avoir accepté et de recevoir et de garder la parole de Dieu. C'est le premier pas dans une vie chrétienne. On entend la parole, on la reçoit. Elle suscite en nous une espérance et cette espérance se concrétisera par une foi réelle et un amour réel. Amen. Et terminons par le dernier point qui est relevé au verset 6, où Paul se réjouit que ce que cette parole leur ait fait porter du fruit. Dans notre vie spirituelle, si on veut voir du fruit dans notre vie, il faut qu'on s'attache à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner un des symboles que Jésus utilise pour parler de sa parole? Si. La semence. Voilà. Quel est le propre même, quelle est la vocation même de la semence? De grandir pour faire porter du fruit. La vocation même de la parole, c'est de nous faire porter du fruit. Mais inversement aussi, et ça se constate et ça se vérifie, ceux qui ne portent pas de fruit dans leur vie sont ceux qui ont délaissé la parole. Toujours. toujours, toujours, toujours. C'est une cause à effet, c'est un lien indispensable. Celui qui ne jette pas de semence, il ne va pas de récolter le fruit. Le chrétien, l'homme, la femme, qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, ne portera jamais les fruits non plus. Alors voilà les quelques caractéristiques de l'église de Colosse. Que Dieu nous fasse grâce aussi, un jour. Que Dieu puisse nous dire, ah, l'église d'Ancenis. Je me réjouis de cette église, elle grandit dans la foi et dans l'amour. Ils sont attachés à la parole et ils portent beaucoup de fruits parce que leur amour est sincère et il est vrai. Amen.